Waouh ! Qu'est-ce que c'est bon de rencontrer un gars qui a cette flamme brûlante au fond du cœur, capable d'inspirer le monde et de déplacer des montagnes, ou de les gravir. À la poursuite de son rêve, il a littéralement joué sa peau, investi l'héritage de son grand-père, appris à se vendre, au prix de centaines de refus et d'autant d'adultes décidés à le dissuader. Pourtant le voilà, au sommet du monde, au sommet de ses rêves, regardant déjà le prochain qui se dessine à l'horizon. À 19 ans, il a planté son drapeau sur 12 des 14 plus hauts pics du monde, s'élevant dans la zone de mort, à 8000 mètres d'altitude. Mais au-delà des records, c'est surtout une leçon de vie. Celle d'un jeune homme pragmatique, méticuleux, discipliné et passionné, qui nous prouve que les seules limites sont celles que l'on se fixe. Bienvenue sur Limitless Project. Je suis David Nicolas, start-upper, athlète, père de famille et explorateur du potentiel humain. Belle écoute! Salut!
Salut!
Écoute, tu me disais que t'étais pas vraiment un adepte des bains froids. Elle ressemble à quoi ta routine du matin? Qu'est-ce que t'as fait ce matin avant d'enregistrer avec moi?
Alors ce matin, faut savoir que moi ma routine c'est selon où je suis, selon les rendez-vous tout ça parce que ça bouge beaucoup dans l'emploi du temps. Mais la plupart des matins, je me réveille autour de 5h. Je vais prendre mon petit déjeuner, après je vais au sport. Et après, c'est déjà l'heure, on va dire, d'attaquer le boulot pour accomplir les projets, tout ce qu'il y a à côté. Et ouais, c'est pas très passionnant, mais il faut bien le faire.
Parce qu'aujourd'hui, tu es engagé à 100% dans la réalisation de ce défi de faire l'ascension de tous les sommets au-delà de 8000 avant tes 20 ans.
Ouais, ça fait plus d'un an et demi. J'ai commencé quand j'avais 17 ans. Et ouais, depuis maintenant, ça fait un an et demi, enfin presque 2 ans maintenant, que je fais que ça tous les matins, du sport, du boulot, et re-sport l'après-midi. Et ouais, c'est éprouvant, mais c'est cool. Pour réaliser un gros projet, il faut bien.
Ouais, du coup, t'as vraiment un emploi du temps d'athlète de haut niveau en réalité, ouais. Avec 2 entraînements par jour et tout.
Ouais, j'essaye. Après, des fois, je peux pas parce que, avec les déplacements, tout ça. Mais j'essaye au moins de caler au moins un entraînement tous les jours. Et quand je suis à Tignes, je fais 2 entraînements tous les jours. Et ouais, c'est pas mal comme programme. On s'ennuie pas.
et c'est quoi comme type d'entraînement? Tu fais du cardio de zone 2, de la renfo, etc. Ou bien c'est vraiment du spécifique où tu vas faire du ski de rando?
Alors en fait ça dépend comment l'entraînement moi est basé. C'est que le matin je priorise la muscu avec du cardio. Maintenant que les conditions sont un peu mieux avec beaucoup plus de neige, avec du soleil, tout ça, là maintenant on va intégrer le matin le ski de randonnée, tout ça, où là on va travailler dans les zones comme tu disais. Et après l'après-midi on va re-aller en salle. Du coup en fait on va juste réagencer le training de le matin, la muscu va passer l'après-midi et le cardio de l'après-midi va passer le matin pour pouvoir sortir en montagne.
Et du coup en muscu tu fais du travail avec des charges et tout?
Ouais, parce que en fait faut savoir que là-bas on perd 17 kilos. Moi sur cette année j'ai perdu 17 kilos en expédition. Du coup, il faut quand même renforcer le physique pour que le physique se baisse le moins possible là-bas. Et aussi, on travaille avec des charges parce que des fois, on porte des sacs entre 20 et 30 kilos de matériel pour monter les montagnes. Du coup, ton corps doit être préparé à subir cette journée-là. Et ça arrive vraiment souvent. Du coup, faut vraiment être le mieux possible physiquement.
Et 17 kilos, c'est énorme. Et tu perds autant de poids parce que pendant la journée, t'as pas trop le temps de t'alimenter, ou bien parce que les expéditions sont tellement longues qu'en réalité, tu crames trop de calories et t'arrives pas à compenser?
En fait, c'est un peu des deux. Les expéditions, faut savoir que si tu veux gravir l'Everest, par exemple, l'année prochaine, tu vas partir du début avril et tu vas finir l'expédition en fin mai. Du coup, ça fait quand même 2 mois juste pour une montagne. Maintenant, on est dans une nouvelle façon de gravir les 8000, c'est de s'acclimater sur un premier 8000 et après de les enchaîner un après les autres. Par exemple, là, cette année, moi, je me suis acclimaté sur l'Annapurna et j'en ai gravi 9 autres directement après. Sur ces 9 autres, la plupart des kilos que j'ai perdus, en fait, sont dus à l'Annapurna, à l'acclimatation, parce que on est quand même dans un environnement qui est très dur physiquement. On perd énormément de calories. on peut pas s'alimenter comme on veut, et aussi on perd énormément d'énergie. Du coup, c'est pour ça qu'en fait il y a tellement de différence de poids d'une première expédition à enchaîner tout ça, parce que ton corps en fait s'épuise petit à petit et il va essayer de trouver de l'énergie dans les parties, on va dire, qui restent un peu de gras et d'y aller prendre. Et quand il y a plus de gras, bah on va aller directement piocher dans le muscle qui n'est pas nécessaire à l'ascension. Du coup, le corps en fait, il est quand même assez bien fait, on va dire.
Et donc du coup, avant de partir, en réalité, outre le fait de faire de la muscu, tu fais potentiellement une prise de masse, tu essaies de capitaliser, de te faire une petite couche graisseuse, limite.
Ouais. Moi, j'ai un petit rituel, c'est deux semaines avant l'expédition, on va dire que je me fais plaisir au niveau des plats. On va dire que je mange beaucoup plus que d'habitude. Et ouais, après, bah, quand on est en expédition, on finit une première expédition. Avant d'aller sur la deuxième expédition, là, on va aller en ville et là, on va essayer de manger le plus possible de calories pour essayer de reprendre, on va dire, un peu de gras et de l'énergie à travers la nourriture. Et ouais, c'est comme ça, 8 mois sur cette année. Ça a été, ouais, intensif.
T'es suivi sur la partie nutritionnelle diététique justement pour adapter ton plan alimentaire peut-être, je sais pas, tu vois, j'y pense comme ça, mais probablement que dans ton cas le fait d'avoir une alimentation peut-être low carb ou cétogène peut potentiellement t'aider pour être sur un apport plutôt lipidique pendant ces expéditions, enfin une lipolyse plutôt pendant ces expéditions, étant donné qu'elles sont relativement longues et que tu peux peut-être pas t'alimenter régulièrement.
Alors non, moi je suis pas suivi par une nutritionniste parce que en fait faut savoir qu'en expédition c'est très difficile de s'approvisionner en fait en nourriture. On est ravitaillé par les yaks, tout ça, et du coup on peut pas en fait choisir et commander vraiment les plats. Du coup on mange ce qu'il y a. Moi par exemple sur la plupart de l'année j'ai mangé du dal bhat. C'est un plat qui est typiquement népalais. C'est ce que les Sherpas mangent, et on mange ça, trois fois par jour.
Et c'est quoi?
Du dal bhat, en fait.
Oui, mais c'est quoi la recette?
Alors, c'est un mix de lentilles, de riz, alors, si on a de la viande, ce qui arrive, pas souvent, quand on est dans des zones, on va dire, très reculées, on met des légumes, et après, il y a une sauce par-dessus qui est très bon, et en fait, ça se mange vraiment, très bon, et dès qu'on en mange une fois, on n'arrête pas. On n'arrête pas.
Ok, donc plutôt végétarien en réalité et assez glucidique. Ok. Et donc ouais, c'est de la nourriture locale. Bah ouais, j'imagine qu'en plus pour amener la nourriture ou les denrées alimentaires assez quand avancé, ça doit pas être évident quoi.
Non, c'est long. Surtout si on décide de prendre de la viande, c'est une autre infrastructure qu'il faut prendre parce que on peut pas le faire en fait porter par des yaks qui vont mettre 2 semaines à arriver au camp de base. Du coup, c'est très long en fait comme nutrition. Et après, on va pas se mentir. Moi, j'ai un petit rituel avant de partir au sommet, c'est de manger. Alors, c'est pas bien du tout, hein. Je le sais, mais des Pringles, ça me fait toujours plaisir parce qu'en fait là-haut, on a tellement pas envie de manger qu'il faut manger des choses que le cerveau a envie. Et moi, le seul truc que j'ai envie, c'est des Pringles et des Snickers. Du coup, je mange ça parce que c'est le seul truc en fait qui me fait plaisir à cette altitude et qui va pas me donner ce rejet de nourriture.
Ouais, parce que tu ressens quand même le mal des montagnes et tout.
Alors moi, j'ai jamais ressenti le mal des montagnes, mais on peut voir en fait chez certaines personnes, ça vient avec la nourriture, mais en fait avec l'altitude, notre corps en fait ne veut pas manger. Il faut le forcer à manger. Ouais. Du coup, il faut juste trouver des petites solutions. Moi, ça a été les Pringles. D'autres, ça a été de prendre des petits bouts de bonbons pour manger, pour essayer de quand même continuer d'avoir de l'énergie.
Ouais, et puis en plus, j'imagine que quand tu commences à arriver sur des altitudes assez élevées, le temps est compté, il fait hyper froid, donc tu peux pas potentiellement peut-être pas enlever tes gants. Au-delà de quoi, 7005, t'as probablement ton masque à oxygène, donc tu peux peut-être pas l'enlever pour manger.
Ouais, alors au 8000, faut savoir que on rentre dans la zone de la mort, comme tu le dis, c'est que en fait au-dessus de 7000 mètres, c'est une zone où il n'y a pas d'oiseaux, on peut pas y vivre en fait très longtemps. notre cœur, quand il rentre dans cette zone, va faire que commencer en fait à mourir petit à petit. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas rester longtemps dans cette zone. Mais en fait, comment on mange tout ça, c'est que on met des tentes en place où on va pouvoir dormir, se reposer. On va enlever le masque à oxygène. Et dans cette tente, vu qu'il y aura eu le réchaud qui chauffe l'eau, tout ça, bah en fait, ça va créer un peu de la chaleur. Du coup, ça va nous permettre d'enlever les gants, de se déshabiller si on a besoin de se changer. Mais on va essayer de garder le plus souvent le masque à oxygène pour essayer que notre corps récupère le plus possible. Et si on a besoin de manger, bah on va le mettre là, au niveau du cou. Et en fait, on va manger très vite. Après, on va manger pas beaucoup, hein, parce qu'on est quand même à 8000. Et après, on va juste remettre le masque à oxygène et essayer de dormir un peu. Et après, à 19h, on va déjà partir pour le sommeil et en route pour toute la nuit, quoi.
Tu ressens ce côté hostile, comme si c'était un endroit qui est justement pas fait pour l'humain, pas fait pour y vivre. Tu me dis qu'il n'y a pas d'oiseaux, etc. Mais t'as peut-être aussi cette espèce de sérénité de la montagne, cette solitude, parce que j'imagine qu'il y a pas grand monde. Est-ce que tu ressens que t'es vraiment dans un endroit un petit peu comme si t'étais sur un astéroïde ou une planète éloignée, et un endroit qui est pas fait pour l'homme?
Ouais, bah on le ressent clairement quand juste déjà avec notre niveau de fatigue. Parce que on a quand même des paliers à respecter. On sait que si on va au-dessus de ce palier pendant l'acclimatation, on va le ressentir. Et quand en fait on va partir pour le sommet, on va tellement marcher lentement que en fait on se sent quand même sur un nuage et de se dire ah ouais, ok quand même. Tu sens quand même cette zone de ah ouais, c'est quand même haut. Mon corps le ressent, tout ça. Et ouais, c'est énorme. Après, c'est une sensation moi que j'adore, parce que de se dire en fait que on est en train de marcher sur on est en train de faire un sommet qui n'a pas été trop fait ni rien, de le faire aussi à un jeune âge comme moi, ça c'est énorme. Et moi j'adore.
Ouais, bah comme tu dis, un jeune âge comme toi, c'est quand même fou, et bien évidemment tout le monde te le dit, mais d'avoir réussi à rêver aussi grand à ton âge, tu vois, l'Everest dans l'imaginaire collectif, c'est une montagne extrêmement dangereuse où je connais pas les stats exactement, mais je crois que à une époque il y avait peut-être 2/3 des personnes qui l'escaladaient qui mouraient. Bon, aujourd'hui c'est quand même plus sécurisé, mais ça reste quand même extrême. Tu l'as fait quoi? T'avais 17 ans, 18 ans?
L'Everest, j'avais 18 ans. Mais mes deux premiers sommets du 1000, j'avais 17 ans seulement. Et ouais, tu sens que bah les gens te regardent différemment parce que t'es jeune, tout ça. Mais moi, je pars du principe que en fait l'âge, c'est pas en effet en fait pour se dire ouais je suis trop jeune pour y aller. C'est si on sait que mentalement on est prêt, physiquement on sait qu'on est prêt, et si on croit en son rêve, en fait c'est possible. Moi, j'ai rêvé gros. Tout le monde me disait que c'était impossible, hein. J'allais voir les sponsors, j'avais 17 ans, je leur disais ouais, je veux faire ça. C'est normal que les gens soient sceptiques. Parce que moi, à leur place, j'aurais été ouais, mais je peux pas sponsoriser ça. Mais pourtant, on a quand même réussi en fait à partir de zéro, avec zéro contact chez les sponsors, et à créer ce projet qui vaut des centaines de milliers d'euros, d'aller les chercher et tout ça. Et on a quand même réussi en fait à escalader ces montagnes, même si c'était très dur physiquement, même si c'était très dur mentalement des fois, mais on a quand même réussi avec mon équipe et moi. Du coup, c'est une grosse partie, mais le regard des gens quand t'es jeune, c'est normal. Mais l'âge n'est vraiment pas un facteur pour en fait se dire que c'est impossible.
Ouais, peut-être que là j'ai pas un facteur pour se dire que c'est impossible, mais par contre effectivement le regard des autres et toutes les embûches que tu trouves sur ton passage peuvent potentiellement réduire ton ambition, en tout cas te faire croire que ça l'est. Tu vois, moi sur une autre échelle, j'ai commencé à entreprendre très jeune, et quand j'allais voir des banquiers ou des choses comme ça, et puis que j'avais 16 ans, et ils me disaient mais il est fou ce type, va déjà passer ton bac et puis reparle après. Et donc effectivement ça m'a pas forcément découragé, mais d'un autre côté ça te donne quand même une forme de de croyance que reste à ta place, reste dans cette voie du milieu, parce que si t'en sors, et eh ben en réalité c'est pas bon pour toi, et puis de toute façon t'y arriveras pas. Alors comment est-ce que toi t'arrives à 16, 17, 18 ans à trouver les ressources nécessaires au fond de toi, au fond de ton cœur, pour malgré tout continuer et te dire non, moi j'y crois, je sens que je suis capable, je sais que je peux le faire et je le ferai.
Alors on va pas se mentir, moi ça a été très difficile, point de vue de tout en fait le projet. Pour moi le plus dur, ça a été quand même le côté trouver des sponsors financiers, aller voir les marques, vraiment leur dire voilà, c'est ça le projet, tout ça. Il faut savoir que moi à mon premier 8000, j'avais zéro sponsor. J'avais décidé en fait de tout mettre, l'argent de mon héritage de mon arrière-grand-père qui venait de décéder un an auparavant, parce que j'avais cette philosophie de je peux pas en fait mettre de l'argent. Mes parents, moi je voulais pas qu'ils investissent en fait de l'argent sur le projet, sur les 8000, parce que au cas où si je revenais pas, j'avais peur qu'ils se disent ah ouais mais c'est nous qui l'avons envoyé là-haut, il est pas revenu, c'est à cause de notre faute. Et en fait à partir du moment où j'ai eu cette réflexion là, je me suis dit ok, bah je vais mettre tout l'argent de l'héritage de mon grand-père dans le premier 8000 et les deux. Et on va voir. Je me suis vraiment dit, on va voir, on tente. Et voilà. Et ça, ça a été quand même un gros fait, parce que t'as 17 ans. D'accord, t'as un héritage, mais c'est quand même très risqué de dire, ouais, je fais et on va voir. C'est pas grave. Cet argent, elle aurait pu être mieux investi quelque part d'autre, tout ça. Mais au final, j'y croyais tellement mentalement, je sais pas comment, que je me suis dit, pas grave, je mets tout. Je mets tout et je tente. Et au final, moi, ça a marché. Après, moi, sincèrement, je dis pas de faire comme moi, hein, parce que c'est très compliqué de juste se dire, ouais, vas-y, on essaye et on voit. Mais cette partie-là, en fait, m'a aidé de me dire, ok, j'ai fait déjà deux premiers 8000. Je sais que mon corps, en fait, est capable d'y aller. Et en fait, quand tu sais que t'es capable, tu peux parler tellement fluidement de ton projet, de tout, que ça devient plus simple en fait d'aller voir des sponsors. Tu montres que t'es rassuré, tu sais de quoi tu parles en fait, tu sais de quoi tu parles, même si t'as un jeune âge. Mais c'est très compliqué mentalement d'avoir le premier rendez-vous, le stress de est-ce qu'ils vont investir sur ce projet là, tout. Mais je pense le plus gros point que j'ai eu, c'était en fait les refus. Ça a été très difficile. Moi j'envoyais peut-être 100 mails par jour, j'avais peut-être une réponse, c'était une réponse négative. Quand j'avais une réponse positive de ouais il veut bien me parler, j'y allais au rendez-vous, j'essayais de speecher un max, de dire pourquoi c'est bien, de montrer tout ça. Mais ça a été très difficile. Après moi je suis très content d'avoir en fait eu cette expérience là, parce que c'est énorme d'avoir une expérience comme ça, surtout à 17 ans quoi.
Et quand t'enchaînes les refus comme ça, tu te dis pas « je suis une merde, j'y arriverai pas ».
J'interromps ce podcast pour te partager deux techniques flash que tout le monde devrait connaître. La première, le soupir physiologique, est validée par Harvard comme l'outil le plus rapide et le plus efficace pour réguler le stress. La seconde, Uddiyana Bandha, peut réellement améliorer ta digestion et la qualité d'assimilation des nutriments. Je t'explique comment les pratiquer dans ma newsletter gratuite, dont le lien est en description. Alors mets cet épisode sur pause, abonne-toi et reviens ensuite.
Non, après oui, il y a quand même des moments de doute de quand t'enchaînes beaucoup de refus, t'es là, t'es ouf, ça fait dur, hein. Mais moi comment je fais, c'est je mange un carré de chocolat, je vais dormir un peu et après je recommence en me disant de toute façon j'ai pas le choix. Hein.
Mais j'aime bien ta vision d'avoir utilisé l'héritage de ton grand-père et puis d'avoir fait all-in sur ce projet. Ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec un autre invité qui s'appelle Laudis Ménard et qui avait utilisé, donc lui il était plus âgé, il avait déjà travaillé, monté des startups, etc. Et il avait économisé de l'argent, je sais plus exactement combien, peut-être 30 ou 50 000 euros sur un compte épargne. Et un jour, dans une période de transition, il a tout claqué, entre guillemets, pour réaliser un film, alors qu'il avait aucune compétences, connaissances en cinématographie, il n'avait pas fait d'études spécifiques, etc. Il savait juste qu'il avait envie de le faire. Et pour lui, sa vision des économies, c'est de financer tes rêves. Et donc, il disait, bah, c'est pas grave, voilà, j'utilise, je finance ce rêve, je réalise ce rêve, puis après, je pourrais toujours retrouver un boulot, remonter un truc, etc. et recommencer à gagner de l'argent. Et je trouve que c'est une vision, tu vois, des économies et de l'argent qu'on n'a plus du tout dans notre société, où on a tendance à penser que on a besoin d'économies pour survivre parce que ça nous sécurise, et donc on les amoncelle, on les fait grossir sur un compte en se disant que comme ça on pourra faire face à des coups durs. Mais c'est entre guillemets mésestimer nos talents internes, parce que si t'as confiance en tes talents, en ce que t'es capable de réaliser, t'as pas besoin d'avoir un super gros matelas pour rebondir. T'as déjà les ressources en toi. Donc ouais, Autant les investir pour vivre des expériences, pour vivre tes rêves. Et ces rêves-là, d'ailleurs, vont quelque part continuer à acérer, à améliorer, à développer tes talents naturels, et donc rendre ta ressource principale, c'est-à-dire toi-même, encore plus forte.
Bah carrément, ça c'est carrément le cas, parce que quand t'investis beaucoup d'argent, bah t'apprends quand même, hein. T'apprends de beaucoup de facteurs. Moi, tu vois, sur le projet, j'ai appris. Moi, je connaissais rien au marketing. Moi, j'avais zéro compétence. J'avais 500 followers sur Insta. C'était déjà énorme, moi, je trouvais. Et en fait, quand t'investis et que t'essayes et tu te dis, bah ouais, mais j'ai plus le choix. Maintenant, j'ai investi. Il faut que je trouve que soit ça marche, soit ça casse. Mais moi, je savais quand même que j'avais quand même le repli, bah, comme lui, d'aller, en fait, trouver un boulot et gagner de l'argent. Ça, je savais que ça allait être possible, mais pour moi, quand t'as un rêve, bah, il faut y aller et tout tenter. Il faut y aller et tout tenter, mais t'apprends énormément de choses si tu poursuis tes rêves.
Ouais, je pense aussi. Bah, d'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. S'il y avait un learning principal ou deux que t'as appris en menant ce projet, outre bien évidemment toute la partie technique, etc., qui te permettrait potentiellement d'être guide de haute montagne, ça serait quoi ?
Marketing, ouais. Et le, en fait, de comment parler aussi. De comment aller voir les sponsors, d'être vraiment sûr de son projet à fond, et en fait de le connaître au bout des doigts au point où ça devient juste instinctif et que tu souris, tout ça, ça c'est des trucs que moi je connaissais pas avant. Je connaissais pas comment créer un projet, je savais rien du tout, parce que bah, j'avais 17 ans, voilà, moi je venais du ski alpin, je faisais que de la compétition, hein, je prenais les piquets rouges, bleus et on les tapait. Et voilà, moi je connaissais que ça, et sincèrement, moi ce projet m'a en fait appris tellement de choses, juste mentalement, physiquement aussi, et même les gens qui me connaissent d'avant le projet et d'après, enfin de maintenant, me disent qu'en fait j'ai pris un bond de maturité qui est énorme. Un projet, ça t'ouvre aussi des perspectives que tu pensais pas avant, et que tu te dis, ah ouais, mais ça pourrait être pas mal, tac. Et en fait, t'essayes toujours de trouver du truc. Et moi, sincèrement, ce projet m'a fait grandir, mais énormément.
Ben oui, j'imagine, d'autant plus que en réalité, tu vois, dans ce projet-là, t'es devenu une marque, t'es devenu une entreprise, et donc t'es un entrepreneur de ta propre vie, mais aussi un entrepreneur de ta propre marque, d'une certaine manière.
Ouais, bah c'est ça, c'est en fait, quand tu fais un projet comme ça, surtout, bah comme tu le dis, là, on essaye en fait de créer vraiment une marque. De nom, enfin comme un panneau publicitaire, tu vois. Mais comment attirer les sponsors, bah, c'est par Insta, c'est par TikTok, tout ça. Et en fait, t'essayes d'entreprendre vraiment dans tous les trucs, t'essayes de capter, t'essayes de montrer en fait aux gens, t'essayes de les inspirer aussi, parce que nous, le but du projet, bah, c'est d'inspirer les jeunes et essayer d'inspirer le plus de monde possible, bah, que en fait, c'est réalisable. Alors que ça soit dans les études, que ça soit dans le sport. En fait, tout est possible, mais il faut vraiment partir, qu'il faut y croire et il faut donner. Et c'est ça que nous, on essaye de transmettre, en fait, dans ce projet-là et dans les autres projets qu'on va créer. Et essayer aussi de montrer, en fait, comment c'est là-haut, parce qu'on n'a pas beaucoup de renseignements. Les gens, on pense que l'Everest, c'est un gros truc. Oui, c'est un gros truc, mais en fait, si on met l'entraînement derrière, si on met la logistique, tout ça, mais en fait, on est capable de le gravir, chacun. Mais il faut l'entraînement, il faut avoir la motivation, il faut avoir la discipline d'aller, et il faut y croire, surtout. Parce que si on n'y croit pas, on réussit pas.
Et tes parents, ils y ont toujours cru, ils t'ont jamais étouffé par leur propre peur?
Alors non, sincèrement, ça a été pour moi, sincèrement, qui est très famille, ça a été le mieux pour moi qu'ils y croivent, parce que bah quand on doute, quand on est là, ouais, mais j'ai zéro sponsor, comment je fais, tout ça, bah ils sont là, ils sont, bah ouais, mais on peut faire comme ça, ils essayent en fait de m'aider, tout ça, et en fait ils ont compris pourquoi je faisais le projet, ils savaient que bah c'était ma passion, la montagne. Il y avait vraiment tous les trucs derrière, que bah je voulais faire ce projet-là parce que j'avais fait ça, j'avais l'expérience en montagne qu'il fallait. Ils savaient que je pouvais prendre aussi les bonnes décisions en montagne, même si on essaye le plus possible bah de prendre, mais des fois parce qu'on peut pas, hein, on peut pas prendre les décisions comme ça. On imagine toujours que les décisions sont, en fait, en montagne, ils sont à trois facteurs, tu vois. Du coup, t'essayes vraiment de prendre les meilleures décisions, même si des fois, c'est pas les meilleures. Et eux, en fait, ils ont vraiment compris le sens du projet et ils ont vraiment essayé de m'aider au plus possible. Et ça a été, mais un soutien qui est énorme pour moi. Parce que quand j'étais au camp 4 de l'Everest, moi, j'avais plus un sponsor. On avait tout épuisé au niveau financier. Et moi, j'étais, mais comment on fait? Parce que il y a l'Everest, d'accord, je vais faire le toit du monde de l'Everest dans 10 heures. Mais par contre, comment on fait financièrement pour la suite du projet? Parce que bah voilà. Et en fait, ils étaient là, on était au téléphone satellite. Moi, j'étais au camp 4 avec mon paquet de Pringles, bien sûr. Mais on était en train de parler parce que bah je savais que c'était le moment et ils étaient là, bah ils essayaient de m'aider, ils essayaient de répondre à des mails, tout ça. Ça a été vraiment un soutien mentalement, mais logistique aussi, parce que bah c'est une grosse logistique. Là, cette année, on a manqué des permis. Bah, ils essayaient de trouver les gens qu'il fallait pour avoir les permis, tout ça. Et sans eux, j'aurais pas réussi, moi, le projet. Et ça, je le dis clairement. C'est que, d'accord, c'est moi qui monte les montagnes, mais il y a tout l'à côté qui suit.
Et tu sais, je suis papa de deux petites filles et j'essaie au maximum, donc la plus âgée a 3 ans, donc elles sont vraiment toutes petites, mais depuis qu'elle est née, j'essaie au maximum de préserver son autonomie, sa volonté d'explorer le monde, etc. Et très tôt, avant même qu'elle sache marcher, elle escaladait les escaliers, elle montait toute seule les escaliers, elle savait les redescendre. Enfin, elle a vraiment de bonnes capacités motrices, de mobilité. Elle s'est beaucoup cassée la figure et donc parfois elle a eu des bosses. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça lui permet de naviguer dans le monde de façon extrêmement libre. Mais tu vois, là-dedans, d'un côté, c'est ma conviction qu'il faut lui permettre d'explorer, de tester, quitte à tomber et parfois se faire un petit peu mal, tant que sa vie est pas en danger. D'un autre côté, c'est pas évident, tu vois, en tant que parent, parce que t'as envie de protéger tes enfants. Et donc, bon, j'imagine que dans ton cas, les choses se sont faites petit à petit. Je crois que t'avais fait ta première ascension en haute montagne à 6 ou 7 ans, donc extrêmement tôt. Mais pour autant, je trouve que ça demande quand même beaucoup de courage, de tempérance de la part de tes parents, de te soutenir dans ce projet, outre l'aspect logistique. De pas projeter sur toi les peurs qu'ils peuvent avoir que tu reviennes pas, et malgré tout d'avoir confiance dans tes rêves et dans ce feu intérieur qui t'habite.
Ouais, bah je pense sincèrement que bah la première fois que je leur ai dit ouais, je vais partir en Himalaya, tout ça, je vais gravir mon premier 6000 et 7000, ouais, ça a été je pense que ça a été bizarre pour eux en leur disant OK, il a 17 ans, il va déjà partir au Népal. Gravir à 7000, bien sûr que c'est difficile pour eux, je pense, parce que bah j'ai 17 ans, ce qui est normal, moi aussi, hein, si j'ai un enfant un jour et qu'il me dit à 17 ans ouais, je vais partir en Himalaya, je vais le soutenir, mais dans ma tête j'aurais toujours une petite appréhension quand même. Mais en fait, comment ils avaient réagi, et ça je trouvais très bien, c'est que ils savaient que s'ils me faisaient pas partir là, 6 mois après j'avais 18 ans et que j'allais partir en autonomie, et voilà. Eux, comment ils ont décidé de le faire? Ils m'ont fait, bah, ok, pas de souci, tu peux y aller, mais par contre, tu prends une bonne équipe. Ça veut dire une équipe qui, parce que à 8000, des fois, en fait, quand le risque est trop en danger pour aller sauver une personne, on est obligé de l'abandonner. Et ils voulaient pas que ça m'arrive. Et eux, ce qu'ils ont dit, c'est, comment ils ont fait, c'est que, ok, tu peux partir, mais tu vas être quand même sécurisé. Ça veut dire que t'as un téléphone satellite, on sait à peu près où t'es, tout ça. Et on essaye en fait de prendre la meilleure équipe possible. Ils savaient que bah, j'avais quand même une bonne équipe avec moi, mais que s'ils refusaient, bah, 6 mois après, j'allais partir, peut-être pas avec une bonne équipe, tout ça. C'était plus, tu vois, encadré.
Mmh.
Mais ils ont quand même essayé de me libérer parce qu'ils savaient que bah, c'était la passion, quoi.
Mais ouais,
je pense sincèrement, c'est difficile en tant que parent de faire tout ça, tu vois.
Ouais, en gros, c'est un peu... j'accepte le risque, mais je... On contrôle et maîtrise tout ce qui est en mon pouvoir pour le diminuer au maximum, quoi. Et toi, comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de cette idée que potentiellement tu fais quelque chose d'extrême, de dangereux et que peut-être tu reviendras pas alors que t'as 18 ans?
Alors, moi, je fonctionne par palier de risque. Faut savoir que je gravis pas une montagne comme ça, comme les gens pensent, parce que, bah, on enchaîne beaucoup de sommets, des fois, par exemple, là au Pakistan, on a fait le 25 et le 28, on était déjà sur un deuxième 8000. On a fait 4 en 11 jours. Tout ça, les gens pensent que je gravis comme ça, je vais sur une montagne, je gravis même s'il y a du mauvais temps. Alors que c'est pas du tout le cas. Moi, par exemple, j'ai 2 météorologues qui m'update en fait du temps toutes les 4 heures quand je suis au sommet. Et quand le temps est pas bon, moi j'envoie un texto à ma maman pour qu'elle me fasse l'update tous les 4 heures de la météo parce que, bah, en fait, leur météo, elle est peut-être pas la même que sur la montagne. Après, moi, je fonctionne par palier de risque parce que avec ça, en fait, tu peux déjà imaginer ton palier de risque. Du coup, le palier de risque, pour moi, il est fait en 3 temps. Comment je suis, comment mon équipe est qui m'accompagne sur le sommet, parce que c'est pas que moi qui gravis le sommet, c'est plus dur, en fait, de être avec son équipe et de savoir comment ils vont, comment ils se sentent, parce que, bah, le projet, il est principalement aussi pour montrer aux gens que bah, les Sherpas, ils sont là et il faut les mettre en lumière. Du coup, pour moi, mon équipe, c'est la plus importante à mes yeux. Si on doit retourner au camp de base parce qu'il y a du mauvais temps, je le ferai sans hésiter parce que je sais que j'ai pas envie que mes Sherpas aient un accident. Après, comment je fonctionne en montagne, c'est que on regarde beaucoup la condition météorologique, comme je disais, l'état de l'équipe. Mais il y a un truc qui est le plus important, c'est comment la montagne est. S'il y a des plaques avant, s'il y a des chutes de pierre, combien il y a de monde sur les montagnes. Tout ça, du coup, c'est vraiment un palier qui, en fait, ça prend beaucoup d'informations qu'on met et c'est beaucoup d'informations à prendre en compte et de se dire, OK, est-ce que c'est faisable? OK, on a tant de temps pour aller au sommet. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que mon équipe se sent bien? Tout ça. J'ai l'avantage aussi d'avoir des Sherpas qui sont jeunes, qui ont quand même beaucoup d'expérience. Là, par exemple, sur Everest, j'avais un Sherpa de 22 ans. On avait 4 ans de différence entre lui et moi. Et il était quand même très fort. Du coup, tu te sens aussi quand même, on va dire, avec lui et on essaye de prendre les meilleures décisions. Après, en montagne, le risque zéro n'existe jamais, mais c'est pareil que si on traverse la route, tout ça, il y a du risque en fait partout. Et mon acceptation du risque, c'est si le risque est trop haut, si les facteurs ne sont pas bons, si mon équipe n'est pas bon, moi je redescends. Ça me dérange pas d'aller au camp 4, de voir que les conditions sont pas là, que mon équipe est fatiguée, et juste de redescendre au camp de base.
Ouais, du coup, on voit que t'es vraiment en maîtrise de tous les facteurs et de toutes les données que tu peux prendre pour justement quantifier ce risque et puis qualifier. Et comme tu sais que tu peux avoir confiance à la fois en ton corps, en ta physiologie, en ta préparation technique, tu sais que si de l'autre côté, les facteurs météorologiques de ton équipe, etc. sont OK, a priori, il n'y a pas un risque plus important que de faire autre chose. Tu vois, tout ça est extrêmement maîtrisé.
Ouais.
Et pour autant, tu dis que si tu sens qu'il faut redescendre, tu redescends. Tu vois, je pense à Mike Horn qui a tenté 2 ou 3 fois le K2 en style hivernal, donc sans oxygène et tout. Et c'est quand même une grosse préparation en termes d'acclimatation, de prix, de budget. Tu vois, tu passes 2 mois, 3 mois, machin. Et je me souviens là la dernière fois, alors qu'il l'avait déjà échoué 1 ou 2 fois, il était à 200 mètres du sommet et puis au final il y avait du vent, les conditions météo étaient vraiment pas top et donc il a décidé de faire demi-tour. Je trouve que dans ces conditions, ça demande, quand tu sais tout ce que t'as engagé en termes de temps et d'argent et que ton rêve est à 200 mètres de toi, ça demande beaucoup de courage d'avoir la présence d'esprit suffisante que pour décider à ce moment-là de faire demi-tour. Pour toi, c'est quelque chose de facile, de gérable, le fait d'abandonner en cours d'ascension?
Ouais. Alors, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile d'abandonner, surtout qu'on sait. Alors, nous, on a déjà fait ça, par exemple, sur le Manaslu il y a 2 ans, parce que il y avait beaucoup d'avalanches, beaucoup de gens ont péri sur cette montagne-là là, il y a 2 ans. Moi, j'avais aucun souci en fait à redescendre au camp de base. Et moi, ce que je fais, c'est que je redescends au camp de base. Je me dis, fais chier, sans être méchant, et désolé pour le mot, mais c'est la vérité. Et en fait, de se dire, ok, bah, je vais voir si les conditions climatiques s'améliorent. Ok, bah, je regarde, je remonte, parce que les conditions climatiques s'améliorent. Puis on est au camp 3, en se disant, ok, demain, on part pour le sommet, et il y a 1 mètre de neige qui chute. Du coup, bah, on est au camp 3 avec mon équipe, en se disant, bah, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ouvre la route? Et voilà. Est-ce que on tente quand même et voilà, et en fait nous on a décidé que bah c'était trop risqué pour ce que ça allait nous apporter. C'est très difficile hein, de prendre cette décision, mais t'investis de l'argent, t'investis du temps, tu fais venir des équipes, tu portes très lourd, t'es fatigué constamment, et de se dire ouais bah je suis obligé de redescendre parce que voilà. Mais des fois en fait c'est mieux de prendre cette décision et de redescendre. Et pas de perdre la vie ou de se blesser, tout ça. Parce que tu peux en fait prendre cet échec en disant, ok, bah, qu'est-ce qui n'a pas allé dans cette expédition? Qu'est-ce qui s'est pas passé, même si ça soit pendant un examen, tout ça, qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Pour en fait juste te dire, ok, bah, ce point-là, ça n'a pas été bon, ce point-là, ça n'a pas été bon, ce point-là, ça n'a pas été bon. Et en fait, rectifier ces points-là, mettre des gens, soit plus compétents, soit t'essayes de t'améliorer, tout ça. Et en fait, au fil des aiguilles, bah, tu trouves quand même une ligne que jamais est tout parfait, mais t'essayes de vraiment le mettre le plus possible pour que les décisions soient le mieux possible. Et ça, bah, ça prend avec les échecs, tout ça. Et en fait, ces échecs apprennent, ça nous apprend vachement. Ça fait très, j'ai 40 ans, mais c'est vrai, pourtant, c'est les échecs qui nous apprennent, en fait, que, bah, on peut s'améliorer dans certains points, et en fait, après, t'es content de pas avoir réussi parce que tu sais que tu serais pas amélioré sans cet échec-là.
Ça a un nom, ça s'appelle l'effet Super Mario, et en gros, c'est une étude qui a montré qu'en réalité, ben, le fait de pouvoir échouer et recommencer te permettait d'apprendre beaucoup, beaucoup plus vite que si t'as pas le droit d'échouer, et du coup, tu fais trop attention, entre guillemets, aux facteurs, et donc t'apprends pas, quoi.
Ouais, bah c'est exactement ça. Je savais pas qu'il y avait une étude sur ça. Je vais aller la voir.
Ça s'appelle l'effet Super Mario, tu pourras regarder.
Ouais, l'effet Super Mario, c'est bien, j'apprends en plus, tu vois.
Mais ouais, donc en fait, toute ton expérience passée, parce que tu dis que t'es jeune, mais d'un autre côté, t'as commencé hyper jeune, donc c'est comme si t'avais 11 ans d'alpinisme quand même derrière toi, 11 ou 12 ans d'alpinisme derrière toi, donc malgré ton jeune âge, t'as déjà pas mal d'expériences, de moments difficiles que t'as dû gérer, que t'as dû manager, et qui, quelque part, renforce, acère, entre guillemets, ton instinct. Même si, quand je t'entends parler, je m'aperçois qu'il y a quand même un côté extrêmement algorithmique. Tu vois, avant de te connaître, j'aurais pensé que c'était plus un feeling. Et en fait, je m'aperçois que certainement, il y a ce feeling qui est là parce que tu as l'habitude d'être en montagne, tu la connais, tu sais la lire, etc. Mais il y a aussi beaucoup de pragmatisme. En mode, j'ai telle donnée. Ok, bon, ben, je prends une décision en fonction de ça. Et tu disais, ouais, j'essaie de prendre la meilleure décision possible. Après coup, on s'aperçoit que c'est peut-être pas toujours la meilleure, mais avec les données que j'avais à ce moment-là, c'était la meilleure. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'important parce que on a une forme de biais cognitif qui nous pousse à juger la qualité de nos décisions en fonction des résultats. Alors que c'est une absurdité parce que tout n'est pas en notre pouvoir. On devrait juger la qualité de nos décisions en fonction des éléments qu'on avait à notre disposition pour la prendre au moment où on l'a prise et pas les résultats qu'elle a donnés qui sont évidemment aléatoires, entre guillemets, parce qu'il y a l'impact de l'environnement.
Bah ouais, non mais c'est clairement ça. C'est ce que je disais, c'est que tout le monde pense que j'y vais au feeling, mais c'est très, on va dire, avec des facteurs. Très avec des facteurs, même s'il y a le côté feeling qui rentre en jeu quand même, tu vas en montagne, tout ça, mais c'est énormément de facteurs à prendre en compte, tout ça.
Ouais, alors qu'est-ce que tu ressens quand tu arrives au sommet du monde, au sommet de tes rêves?
Eh ben, qu'est-ce qu'on pense? Comment on finance la prochaine? Non, moi, sincèrement, il y a un moment, ça, c'était sur l'Everest, il y a un moment qui était magnifique. C'est que, en fait, j'étais au sommet sud à 8600 mètres et j'ai pu voir, en fait, la courbure de la Terre. Et ça, c'était magnifique. Ça, c'était magnifique, en fait, d'être sur ce sommet-là et de regarder partout et tu te dis, ouais, c'est vraiment le plus haut, quoi.
Ouais.
Tu vois tous les sommets qui sont plus bas, tout ça, et tu te dis putain, c'est quelque chose mais d'incroyable. Et en plus, moi, le sentiment que j'avais, c'est que j'étais avec mon équipe, et du coup, ce sentiment d'être là-haut, d'être tous contents, tout ça, c'est énorme. Après, sur l'Everest, il y a des choses qui arrivent là. Sur l'Everest, nous cette année, on a dû faire un secours, tout. C'est quand même très, tu fêtes, mais tu penses aussi à la descente parce que tu gravis que 50% de la montée. Hein. En fait, tu es au sommet, mais tu n'as fait que 50% pour redescendre parce que c'est à la descente où les problèmes arrivent. Parce que tu es moins lucide, tu es plus fatigué, tu es content d'avoir réussi le sommet, mais c'est à la descente que les accidents arrivent. Du coup, on est tous contents, mais on reste concentré quand même de ok, il faut descendre. Et après, nous, on a eu la personne à secourir, du coup, on l'a secouru en plus. Et ouais, c'est des moments qui vont rester gravés à vie, mais que tu te dis, c'est pas non plus tout rose, tu vois.
C'était quoi le sauvetage? Ça s'est passé comment? C'était quoi le problème et comment est-ce que vous l'avez géré?
Alors, le sauvetage, c'était une personne qui avait été abandonnée par son équipe. Elle était juste avant le sommet sud. Du coup, nous, on pensait que c'était une personne qui montait vachement tôt. Elle était toute seule, d'accord. On y allait, et en fait, il y avait un Sherpa qui était devant, qui nous fait à l'appel radio en disant, il y a un gars. Ok. On monte, on voit le gars, et en fait, il nous dit, ouais, ça fait toute la nuit qu'il est resté là. Il était à plus de 8600 mètres, avec plus d'oxygène, plus de gants. Plus de lunettes de soleil, du coup, nous, on se disait, ouais, mais là, c'est foutu, quoi.
Ouais, la cornée était cramée, il était rempli d'engelures aux mains, etc.
Pas les yeux, on savait que, il lui fallait qu'on mette un masque directement, les mains étaient noires, tout ça, du coup, on était, putain, déjà qu'il ait survécu la nuit, à 8600 mètres avec plus de 60 km/h de vent, on se dit, waouh,
le gars. Il était conscient, il parlait?
Ouais, il parlait. Ouais. Il parlait, c'est ça le pire. C'est que nous, il nous parlait et on était OK. Et en fait, il y a un Sherpa qui nous a dit OK, vous allez au sommet parce que c'était à 20 minutes. Lui, il faut savoir qu'un sauvetage à 8600 mètres, c'est énormément de temps à mettre en place. Ça veut dire qu'il faut un matelas pour le mettre sur le matelas, il faut l'entourer de cordes pour que tout soit bien fixé, il faut lui mettre de l'oxygène, il faut lui mettre le masque, il faut lui mettre des gants. Et ça prendrait pas beaucoup de temps à 2000 mètres. Mais le problème, vu qu'on est dans la zone de la mort, lui, il s'épuise. Nous, on s'épuise. Nous, on n'avance pas très vite. Du coup, c'est beaucoup de temps à mettre. Et le Sherpa qui était avec nous, il nous a dit, OK, vous y allez. Moi, je commence à le préparer. Du coup, il le met sous ox. Nous, on va au sommet. On prend la photo du sommet, tout ça. Mais comme je disais, c'est qu'en fait, nous, on savait dans notre tête aussi, du coup, on célébrait ce même, on savait qu'il y avait une descente à faire et qu'en plus de ça, il fallait qu'on secoure ce gars-là. Du coup, on redescend. Il était presque à la fin de la préparation et du coup, là, on a mis des Sherpas devant, des Sherpas à l'arrière pour qu'en fait, la descente se fasse le plus naturellement. Mais il faut savoir que quand nous, on a su ça, on a appelé le camp de base pour dire, il y a un secours, il est à qui? C'est quoi son nom? Il est à quelle équipe? Pardon. Il est à quelle équipe, tout ça. Et ils nous ont dit, une équipe nous a dit, oui, pas de souci, nous, on a déjà envoyé une équipe de secours. Ils nous disent, ils sont au-dessus du camp 4. Du coup, on se dit, OK, cool, on va descendre tout petit doucement, mais il va y avoir des personnes qui vont nous aider aussi à le descendre après au camp 4. On descend, et on arrive peut-être à 45 minutes du camp 4, et en fait, y a personne qui monte. Du coup, on redescend, on va au camp 4, et en fait,
ces personnes, le personne du sauvetage venait en fait du camp 3. Du coup, c'était encore plus long que du camp 4. Ils nous disent, ok, on prend le relais à partir de maintenant. Du coup, moi et mon équipe, bah, on est ok, pas de souci, vous prenez le relais, on va faire ci. On descend. Et en fait, on apprend la nouvelle plus tard que bah, ces personnes-là, ils ont en fait fait, ils sont allés dormir, les Sherpas, parce qu'ils étaient fatigués, sauf qu'ils ne se sont jamais réveillés. Du coup, son équipe de sauvetage, qui n'était pas la nôtre, aurait dû bah, le descendre directement, ce qu'ils n'ont pas fait. Et nous, bah, on était arrivés déjà au camp 3, on reçoit la nouvelle que bah, ils n'ont pas descendu le gars et qu'ils sont en fait, qu'ils sont morts dans le sommeil. Et que bah, nous, on se disait, mais attends, il y a encore un gars qui est vivant. Et nous, on était trop loin, on était trop fatigués, l'équipe elle était trop fatiguée. Et elle a dû passer encore une nuit de plus au camp 4 avec des personnes et après le redescendre. Mais ça a été un secours qui était très, on va dire, engagé cette année.
C'est une histoire complètement dingue. Ça me fait me poser plusieurs questions. Déjà, ce gars-là, comment est-ce qu'il peut avoir suffisamment d'énergie vitale pour survivre à la nuit, pour survivre à tout ça, à cette altitude-là, et pour autant pas en avoir assez pour redescendre, par exemple, avec son équipe? Parce que son équipe, quoi, au bout d'un moment, il dit « Vas-y, je suis trop fatigué. » Son équipe dit « Ok, bah nous, faut qu'on redescende, donc on t'abandonne. »
Bah alors en fait, on ne sait pas comment ça s'est passé quand il était au sommet ou avant le sommet. On n'a pas de détails en fait sur le fait que s'il a été abandonné, s'il a continué tout seul, s'il était seul. On n'a jamais eu de détails comme ça. Il avait assez d'énergie encore quand nous on est allé, quand on était à côté du sommet et qu'on l'a vu, qu'il essayait de redescendre tout seul, mais très lentement. Du coup, nous on a vu ça, on savait que si on essayait, on allait le redescendre beaucoup plus vite que si lui tout seul. Mmh. Il y a plein de données comme ça. Et qu'après, qu'il ait survécu une deuxième nuit, on sait pas comment il a fait. Mentalement, il est très fort, je pense.
Et les Sherpas, comment ils sont morts dans leur sommeil?
Bah, d'épuisement. D'épuisement, peut-être de... Alors ça, on n'a pas de détails, mais ouais, ça il y a beaucoup de facteurs, en fait. L'épuisement, s'ils étaient malades avant, beaucoup de choses.
Donc toi, tu fais des choses, t'as des espèces de, je sais pas, de biofeedback ou des choses comme ça avant de t'endormir pour savoir si tu peux t'endormir en sécurité, enfin justement pour éviter ce type de problème?
Non. Moi, je m'endors. Je m'endors et je mets un réveil. Ouais, c'est vrai. Hein.
Bon, après, j'imagine c'est aussi l'importance de toute l'acclimatation au début. Moi, ouais. Tu vois, j'ai fait un peu d'alpinisme à petit niveau dans les Alpes et les premières nuits, enfin la première nuit en tout cas, tu dors pas en fait. Ton corps, c'est une forme de stress pour lui, l'altitude, la haute altitude, et donc enfin en tout cas, je pense que ça le fait pour tout le monde. Et donc t'es agité toute la nuit, tu dors quasiment pas. Puis après la deuxième ou la troisième, ça te passe déjà beaucoup mieux, quoi.
Ouais, bah c'est exactement ça. Après, bah, il faut savoir qu'à 8000, on ne dort pas vraiment. Par exemple, au dernier camp 4 de l'Everest, on est à 7900 mètres. On ne dort pas vraiment, hein. On somnole. On se réveille de temps en temps, on bouge beaucoup parce qu'il y a des pierres en dessous de nous, du coup, il faut les bouger des fois, tout ça. On ne dort pas très bien. Après, moi, je mets toujours un réveil. J'essaye au moins de dormir avant le sommet parce que on ne sait pas ce qui va se passer. Après, tu vois, par exemple, sur la face du Pakistan, on a fait... moi, sur 11 jours où j'ai fait les quatre sommets, du coup, G1, G2, Broad Peak, K2, sur ces 11 jours, j'ai une moyenne, moi, de sommeil par nuit qui est à 3h.5 par nuit. Et il faut savoir qu'il y avait des sommets, par exemple, le Broad Peak et le K2, qu'on allait du camp de base, on allait au camp 2, on faisait 5 heures de repos. On montait directement au sommet et on redescendait d'une traite au camp de base. Du coup, en fait, ton corps, il est épuisé. Et quand t'as pas beaucoup de sommeil, bah, tu peux t'endormir partout. Tu peux t'endormir partout.
Et c'est quand même dingue, tu vois, d'être capable de continuer à avancer malgré le manque de sommeil, malgré le manque de nourriture et d'énergie, et malgré l'altitude. Enfin, tu vois, moi, je le vois sur des petits sommets type le Mont Blanc, etc. Enfin, dès que t'es un petit peu haut, quand tu dépasses les, je sais pas, les 3008, 4000, chaque pas devient difficile, quand même, devient taxant, quoi. Donc, je trouve ça quand même dingue que malgré tous ces facteurs qui devraient t'empêcher de continuer, tu sois quand même capable de continuer à mettre un pied devant l'autre et d'avancer.
Ouais, bah c'est beaucoup de caféine. Hein. on va dire le Red Bull, ça m'a beaucoup aidé, la café, les expressos. Ouais, non, ça aide beaucoup, sincèrement. Moi, sur les sommets du Pakistan, ouais, je vais beaucoup de café, de Red Bull, parce que faut savoir que entre les camps de base sur la face du Pakistan, nous, on a fait tout à pied, parce que je voulais tout faire à pied. Du coup, on avait des treks des fois qui duraient 10 jours. Par exemple, on a fait le Nanga Parbat le 2 juillet. On avait 10 jours de trek après à enchaîner pour aller à la deuxième montagne. Sauf que nous, on voulait pas faire 10 jours de trek. Du coup, bah, on allait et on s'est dit, bah, ok, les 10 jours de trek, comment le faire pour le faire en 5? Du coup, bah, on loupait des étapes et en fait, on marchait des fois des 30 km. On faisait un sommet. On faisait le deuxième. Par exemple, le G1, G2, c'est deux sommets qui sont à côté. On y allait directement. On redescendait au camp de base. On chargeait tout dans les duffels. On les mettait sur les mules. Les mules partaient. Et nous, en fait, on courait jusqu'au camp de base du K2. Et là, il y avait peut-être, ouais, 30, 35 km qu'on a fait, bah, en une journée. On a fait ça. Après, on a récupéré nos duffels. On a tout séché parce qu'il pleuvait. On est monté au Broad Peak. On est redescendu. On a fait le K2 directement. Et ouais, ça, en fait, ça s'enchaîne très vite. Et si t'as pas cette dose d'adrénaline aussi dans ton cerveau, hein, parce que c'est l'adrénaline qui va te garder éveillé, tout ça, et si t'as pas l'adrénaline et le mental, t'arriveras pas en fait à te pousser physiquement vraiment pur et dur, tu vois, parce que y avait des fois, enfin moi je redescendais du camp de base, j'avais des douleurs de partout, au dos, aux jambes, je paquais mon sac, je mettais le sac, j'avais plus de douleur, je marchais, et voilà. Mais parce que en fait le mental au bout d'un moment reprend le relais. C'est énorme, sincèrement. Le mental est capable de beaucoup.
Comment est-ce que tu l'entraînes, ce mental? Comment est-ce que tu progresses dans ta gestion de l'inconfort? J'aurais envie de te demander, est-ce que c'est parce que tu le fais depuis 11 ans ou 12 ans et que petit à petit, tu t'es exposé à de plus en plus d'inconfort qu'aujourd'hui, c'est devenu facile? Mais t'écoutez, j'ai pas l'impression que ce soit devenu facile. C'est juste que tu as en toi la certitude que tu as les ressources nécessaires pour surmonter ces difficultés et que ça te donne une force de force et de résilience mentale. Mais comment est-ce que t'entraînes tout ça?
Alors, moi, j'entraîne pas vraiment. Alors, le mental, moi, j'ai fait beaucoup de méditation. En étant jeune, j'en fais toujours beaucoup. Parce que quand je faisais de la compétition de ski, j'étais un gros stressé. J'étais vraiment stressé à bloc, tout ça. Du coup, moi, il fallait que je trouve des moyens pour me déstresser. Et le seul moyen, bah, c'était la méditation, la relaxation vraiment pure et dure. Et en fait, je pense que ça, en fait, ça a bien fonctionné dans le fait de faire ça. Et après, bah, il y a aussi les entraînements physiques. Par exemple, quand je suis à la musculation ou que je fais du cardio, bah, je vais me pousser à fond au point où vomir des fois, parce que je sais que j'en ai besoin pour aller sur ces sommets là de savoir que mon corps en fait est capable. Et en fait, quand tu sais que ton corps est capable, ton mental va prendre le relais quand tu vas être vraiment fatigué. Et ton mental, quand ton mental a vraiment qu'un seul objectif, d'aller au sommet, et eh ben, il va te faire aller au sommet. Il va te faire vivre de l'inconfort. Hein. Moi, il y avait des fois, enfin, après le K2, on était au glacier juste en dessous. On était à 1 h du camp de base. Il était 4 h 30 du matin. J'avais pas dormi plus de 36 heures avec mon Sherpa. On s'est assis sur un rocher, on a dormi. En fait, parce que tu sais aussi que t'avais besoin de ce côté-là. Et sans ce mental, on n'aurait pas réussi à tenir 36 heures sans dormir. Et ça, pour moi, en fait, ça se travaille avec ce que tu fais à l'entraînement, ce que tu ressens, comment tu le sens. Et il y avait une grosse partie aussi parce que je savais que il fallait que je réussisse ce projet. Parce que j'allais pas pouvoir, en fait, faire un autre projet parce que, bah, si je réussissais pas un sommet, alors descendre à cause des conditions climatiques, tout ça, et de retenter une autre fois, ça me dérange pas. Mais d'être au camp de base et de m'arrêter parce que physiquement ou mentalement je suis mal, je ne le voulais pas. Et comment mon mental a fait, c'est que
bah je poussais vraiment loin et bah j'essayais d'être réveillé le plus possible et de pousser et de pousser. Mais après je savais que mes sherpas étaient capables de m'aider s'il y avait un pépin.
Ouais, il y a deux trucs intéressants dans ce que tu dis. Je pense que donc ce côté d'entraîner, de s'entraîner dans l'inconfort, à jouer justement avec cette limite. En fait, j'ai la sensation que plus on en fait, plus on est capable d'en faire. Tu vois, c'est un peu cette histoire de quand tu cours pas, tu sais pas courir, tu fais pas de course à pied, tu vois. Tu fais 1 kilomètre et au bout d'un kilomètre, tu craches un petit peu tes poumons. Et un jour, tu t'inscris à un 10 kilomètres et tu fais un 10 kilomètres et là, t'as l'impression d'avoir fait un exploit, quoi. Et puis, et à force de t'entraîner, en réalité, bah, petit à petit, ce 10 kilomètres, ça devient juste ton easy run que tu fais tous les jours d'entretien de base, tu vois, qui te demande absolument presque aucun effort. T'es presque en activation parasympathique, c'est-à-dire le système nerveux autonome qui est plutôt lié à la détente et à la digestion, parce que c'est devenu ta baseline. Et cette baseline, elle te permet bah, d'aller conquérir, je sais pas, des 30, des 40, des 50. Et voilà, donc à force, et donc c'est pareil en musculation, où à force... d'aller de jouer avec cette brûlure musculaire, ce spirit aussi, tu vois, cette capacité à se faire mal et à trouver du plaisir dans la douleur d'une certaine façon, te donne une forme de ressource qui, par biais de contraste, en réalité, rend tous les autres efforts de la vie plus faciles. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, dans ce que tu dis, c'est que on sent vraiment cette notion d'ikigai, de mission de vie, de je réalise un projet qui me dépasse, qui est plus grand que moi, et je fais pas ça seulement pour me dire que j'ai fait sommet ou que je suis le plus beau, le plus fort, mais parce que j'ai envie de réaliser quelque chose de grand et d'inspirer les gens sur ce qui est possible de faire.
C'est exactement ça. C'était exactement ça. On savait que c'était possible, et quand on savait que c'était possible, que tous les facteurs étaient bons, bah, on voulait qu'y aller. Et le problème, c'est que moi, j'avais... Faut mettre aussi en perspective que moi, j'avais... Alors, sur le projet, j'ai décidé, en fait, d'utiliser un Sherpa différent par chaque sommet. Du coup, j'avais 12 Sherpas cette année, et ils choisissaient la montagne qu'ils voulaient faire.
Parce que tu dis que tu avais 12, attends, excuse-moi, c'est juste pour bien comprendre. Ouais, en plus, c'était une question que je voulais te poser, parce que plusieurs fois, tu as dit mes Sherpas. Donc, ça veut dire que tu as ton équipe qui est avec toi au camp de base, mais à chaque fois, quand tu montes, il y en a un ou plusieurs qui montent avec toi?
Non, du coup, ça dépend. Par exemple, sur l'Everest, moi, j'avais un Sherpa qui était avec moi vraiment pur. Après, mes Sherpas, je dis ça, mais en fait, ils sont pas vraiment avec moi. On est plus, tu vois, genre une équipe. On va dire qu'il y a beaucoup de gens qui grimpent. Tu vois, si on est 5 personnes à grimper, bah tu vas avoir 5 Sherpas en plus. Et en fait, chaque Sherpa va aider s'il peut l'un l'autre, tu vois. Du coup, on fonctionne vraiment en équipe. Après, moi, sur chaque sommet, j'ai qu'un Sherpa qui est avec moi tout le temps.
Attitré, ok.
Attitré, qui est avec moi tout le temps. Et comment j'ai décidé, c'est que tu vois, cette année, je devais faire 12 sommets, donc j'avais 12 Sherpas différents. Et sur ces 12 Sherpas, bah, ils venaient au camp de base, mais le problème, c'est que eux, ils étaient depuis un mois et demi au camp de base, en train de préparer l'ascension, tout ça. Et moi, j'étais sur un autre sommet. Du coup, je faisais le sommet, j'allais au camp de base, tout ça. Et après, ce Sherpa-là m'attendait en me disant, OK, c'est maintenant qu'on y va. Et du coup, quand lui, bah, il était trop content parce qu'on allait faire le sommet, et que toi, t'es là, t'es, ouais, moi, je suis fatigué, là. Voilà. Et le problème, bah, c'est que vu que t'es avec eux et vu que c'est toi qui as créé le projet et vu que c'est des Sherpas jeunes, enfin un peu plus vieux que moi, je voulais pas leur montrer que bah des fois j'étais, on va dire, tu vois, sur l'Everest, j'étais pas bien mentalement parce que bah il y avait le côté financement sur le camp 4. Mais je voulais pas montrer ce côté-là à mon Sherpa parce que je savais que mon Sherpa, si je lui montrais ça, il n'allait pas se donner à fond. Du coup, c'est ce côté-là aussi de « t'inquiète pas, je suis en forme, je suis bien mentalement, physiquement, tout va bien dans ma vie », et de continuer à pousser au-delà, de sourire, de faire « allez, on y va », tout ça. Et c'est ça qui est le plus gros aussi. C'est juste de c'est ça quand t'es, on va dire, quand t'es avec des gens, ils comptent sur toi, tu vois. Et ça, c'est un gros truc.
Ouais, c'est marrant, ça me fait penser quand j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait avec un gars qui s'appelle Serge Rotelli, qui est un gars exceptionnel j'ai reçu sur le podcast aussi, qui a traversé le monde en faisant un marathon par jour. Donc, et il a fait ça pendant 10 ans. enfin 5 ans d'abord et puis après il l'a refait, enfin bref, au total ça fait 10 ans, il a fait 45 000 km comme ça et il a parcouru le monde avec ses pieds quoi. Et donc là moi je suis monté avec lui, il avait 67 ans. Donc tu vois, pas jeune hein. Et pour autant, il montait comme un bouquetin. Et donc, moi j'avais pas une grosse expérience en alpinisme, j'avais fait les Brighthorn etc, enfin 2-3 sommets avant mais quand même pas une grosse expérience et donc je le suis. Et puis j'avais l'impression de pas avancer parce que tu sais avec l'altitude chaque pas est difficile et puis t'as l'impression de pas avancer, mais je voulais pas lui montrer tu vois que j'étais à la peine, que je commençais à être fatigué, j'avais mon ego etc, et donc j'avais envie de montrer que j'étais capable, donc je disais rien tu vois, je continuais et j'avais l'impression d'être lent, de pas avancer quoi, donc vraiment donc ça a renforcé encore mon envie de prouver. Et puis en fait, il m'a avoué après qu'il avait rarement fait aussi rapidement avec des clients. Et il ne l'avait pas dit, mais en fait, on allait hyper vite comparé à ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais moi, je ne le savais pas. Et poussé par mon ego, justement, ben, je trouvais des ressources aussi en moi que je n'aurais pas été chercher si je n'avais pas été justement drivé par cette volonté de montrer que j'étais capable et puis de prouver, entre guillemets.
Ouais, de prouver. Et aussi, pour moi, c'est un signe, tu vois, d'essayer de montrer que bah t'es capable, tu vois, qu'ils comptent sur toi les gens, et si tu montres ça, ils sont contents parce qu'ils sont là, ok, bah moi je fais pas ça pour rien quoi. C'est ça, c'est ok, mais il se donne à fond quoi, il est là, il est encore content, il en a fait 5 et il essaye, et c'est ça que moi j'essayais de montrer. Et le problème c'est que moi je voulais que mon équipe se donne le meilleur possible. Et si je leur montrais que j'étais fatigué, pas bien mentalement, tout ça, bah ils allaient pas se donner à fond. Fallait qu'ils croient dans le projet, comme ils ont cru en moi quand je leur ai demandé, bah tu viens avec moi ou quoi, tu vois. C'est ça. Et je voulais qu'ils le sentent sur les montagnes. Ils disent, ouais, ça c'est des moments qui sont uniques.
Et outre la difficulté physique, est-ce que t'as déjà eu peur, vraiment peur, pendant une de tes aventures?
Ouais, sur le K2, j'avais, bah c'est encore une fois ce K2, j'étais à la montée et en fait le mauvais temps devait arriver à 16h de l'après-midi. Au final, il est arrivé à 11h du matin, du coup pendant notre descente, et on a été bloqué pendant plus de 3h30, enfin pendant 3h à 8 300 mètres d'altitude. Il y avait 3 000 mètres de vide à gauche, 3 000 mètres de vide à droite. Il y avait plus de chemin. On savait pas où on était vraiment. Et il y avait plus les petits bouts de bois pour l'itinéraire qu'on met d'habitude. Et on voyait rien à 5 mètres. Il y avait 70 km/h de vent. C'était vraiment, moi, mes lunettes de soleil de là-haut, en fait, elles gelaient de l'intérieur. Le verre, en fait, gelait. Et du coup, tu voyais aussi rien. Et moi, j'ai eu peur, mais pas peur pour moi, peur pour mon Sherpa, du coup. J'avais peur en me disant, ouais, mais c'est moi qui l'ai emmené, quoi. Et je me suis dit, ouais, voilà, il faut qu'on trouve une solution. Du coup, bah, on s'est dit, bah, on a encore de l'oxygène, on va baisser à fond l'oxygène. On va attendre ici pendant à peu près une heure. On s'est dit au début, ça s'éclaircissait pas. Ok. 2 heures, ça s'éclaircit pas. 3 heures, on commence à voir que ça s'éclaircit, on attend un peu. Et là, on voit qu'il y a une petite lumière et on s'est dit, ok, on y va. Et du coup, là, on a tous mis les sacs, on est parti vers la direction de la lumière, de voir un premier piquet en bois. Après, on en a vu un deuxième 10 minutes plus tard. On est allé dans cette direction et en fait, on a fait ça pendant 2 heures à la descente. Et là, ouais, au total, ça faisait 5 heures. Et moi, j'avais la peur pour mon Sherpa de comment il est physiquement, comment il se sent mentalement aussi. Tu vois.
Ouais, après c'est marrant que t'aies peur pour lui parce que moi j'aurais tendance à penser que ton Sherpa c'est un peu ton ange gardien et puis que lui il a l'habitude parce qu'il fait ça tout le temps, tandis que toi t'es moins acclimaté, moins habitué, c'est pas ton métier quoi. Enfin c'est ton métier, si c'est devenu ton métier, mais à la base peut-être pas quoi.
Ouais, mais après le problème c'est que c'était moi qui c'était mon binôme. Du coup et moi je le connaissais vraiment bien. Du coup t'es là, ça va tout ça, et en fait après une heure d'être assis, je me retourne et je le vois dormir, quoi.
Ah ouais.
Je le vois dormir. En fait, il était tellement relax. Et vu qu'on n'avait pas dormi plus de 36 heures, il était assis dans la neige avec son masque à oxygène et il avait les yeux fermés, il dormait.
Et là, tes vêtements, ils sont suffisamment isolants et tout pour te sentir bien. Tu peux attendre comme ça 3 heures avec le vent à 70 km/h et tout à 8000 et quelques et être bien.
Alors non, t'as froid. Hein. T'as froid. Ah, t'as la combi qui est gelée. Moi, j'avais un bout de glace parce que j'étais en casquette vu qu'il faisait beau. Et j'ai quand le vent est venu, bah j'ai pas eu le temps de mettre le bonnet. Du coup, bah j'avais mis la grosse capuche de la doudoune, tout ça, et ça chauffait bien. Et en fait, à cause du vent, toute cette partie-là, moi, ça a été gelé. Il y avait un bout de glace qui était gelé, qui tenait à la casquette et qui tenait un peu sur sur ma tempe. Et ouais, c'est tu te cailles. Hein. On va pas se mentir. Hein.
Et tu vois, à force justement de côtoyer l'inconfort, on l'a vu à la fois l'inconfort physiologique, l'inconfort physique, et puis la peur, la difficulté météorologique des éléments, etc. Enfin, franchement, t'es confronté à toutes les sortes d'inconfort possibles pendant tes expéditions. Est-ce que t'as la sensation que ça se transfère à tout le reste de ta vie? Est-ce que à côté de ça, tout le reste est plus facile? Je sais pas, tes relations amoureuses, tes relations avec tes sponsors, la prise de parole en public. En réalité, avant de faire quelque chose qui pourrait te stresser, tu dis, ouais, attends, franchement, à côté de l'Everest, c'est rien.
Non, parce que, alors moi, je suis à l'aise en montagne, mais je suis toujours pas, enfin, il y a toujours des points à améliorer. Mais par exemple, moi, si vous me mettez en ville avec un métro, tout ça, moi, je suis là, mais lequel je prends, quoi. Je suis perdu, moi. Hein. Mais non, après, oui, bah, ça devient plus simple parce que, bah, t'as appris des choses, à côté du marketing pour tes sponsors, tout ça. Ça t'aide vachement dans la vie quotidienne. Juste, bah, dans les petits moments où tu devrais stresser, bah, t'es là, t'es ok, bah, c'est pas grave. Ouais, mais t'as toujours ce côté d'être stressant. Aussi.
Ok, donc tu l'as pas vaincu définitivement.
Ah non, j'ai encore un gros travail dessus, moi.
Eh, c'est marrant, hein, comme quoi, tu vois, la zone de confort, elle est très spécifique en fonction de nos habitudes de vie. Tu vois, moi, quand j'ai fait mes premiers sommets, la première fois que j'ai marché avec le vide des deux côtés sur une petite corniche qui faisait 30 cm de large, puis le vide des deux côtés, bah, j'en ai pas large, tu vois, et je me disais, voilà, si je tombe, c'est fini, quoi, je meurs. Et donc, faut pas que je me prenne les crampons dans mon pantalon. Et enfin, tu vois, c'était vraiment un gros stress. Et ça m'a remis en perspective des tas de choses dans ma vie parce que je me suis dit, tu vois, à côté de ça, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, etc. Tu vois. Donc, c'est vraiment pour moi une période, une étape qui a été vraiment marquante dans les choix que j'ai fait dans ma vie. Et pour toi, ça probablement c'est un truc. Enfin, tu vois, quand je te demande ta relation avec la peur, bah visiblement c'est un truc qui n'existe pas du tout pour toi parce que tu as toujours été confronté. Mais à côté de ça, le fait au début de prendre la parole, tu le disais pour aller pitcher ton projet ou d'aller prendre le métro, ça le sera. Donc c'est assez marrant de voir à quel point tout ça est vraiment une question d'habitude, d'accoutumance. Et plus t'as l'habitude de t'exposer à un stresseur, moins il le devient. Et d'ailleurs, je te donnais l'exemple du lac en bas de chez moi, dans lequel j'allais me baigner. Et puis toi, tu me disais, ouais, putain, moi, j'aurais du mal à me motiver alors qu'il est à 8 degrés. Et moi, je te dis, bah non, pour moi, c'est devenu facile. Parce que j'ai tellement l'habitude de m'exposer à l'eau froide parce que j'aime bien ça et on parlait des endorphines, etc. qu'aujourd'hui, c'est devenu une baseline, en fait.
Ouais, mais ça, c'est, enfin, moi, je trouve ça incroyable, sincèrement, déjà, tous les matins, d'aller se baigner dans une eau à 8 degrés. Waouh. Moi, ouais, là, il faudra un bon sauna avant, comme ça, je sens rien du tout, hein.
Ah, mais j'ai le sauna aussi. Dans mon salon, à défaut d'avoir une télé, j'ai pas de télé dans mon salon, mais j'ai un sauna. Et franchement, c'est un achat de cette année. Et c'est probablement le meilleur achat que j'ai fait. Parce que après une grosse journée de boulot, où t'as bien travaillé, où tu t'es entraîné, etc. Tu vois, moi, j'ai une tendance à être un petit peu hyperactif et à vouloir faire beaucoup de choses. Un peu comme toi, visiblement, je pense qu'on est des gens passionnés. Et ce feu intérieur, il a parfois besoin de repos. Et tu parlais de la méditation. Moi, j'aime bien aussi la respiration, etc. Parce que c'est des choses qui me permettent justement d'activer le parasympathique, de me détendre ou d'aller marcher simplement dehors dans la nature. C'est des choses qui améliorent ma clarté d'esprit, permettent à mon cerveau de faire du tri, etc. C'est vraiment des choses qui sont des moments préservés qui sont importants pour moi. Et le sauna, franchement, ça... en un quart d'heure de sauna, ça a un effet sur de détente physique, mais aussi intellectuelle, mentale, qui est vraiment extrêmement puissant. Et donc, j'en fais 3-4 fois par semaine et je kiffe ça.
Ouais, non, mais c'est génial. Juste le fait, tu sais, moi, je le fais dans la méditation, de lâcher prise.
Mm.
De se dire, c'est bon, maintenant, je me repose. Et en fait, ton corps, il en a besoin. Hein. On pense que le corps humain, il est prêt à tout, mais si t'es physiqué, enfin, si t'arrives pas bien à dormir, tout ça, si t'es fatigué tout, constamment, tout, c'est qu'il y a un truc qu'il faut que t'améliores, tout, et ça vient des fois par juste savoir, en fait, lâcher prise à des moments clés. Et la méditation, le sauna, tu vois, toi, ton lac, moi, ça me ferait pas du bien, mais... Ça, en fait, ouais, ça te fait dans le côté lâcher prise.
Ouais, bah, et ce côté lâcher prise, en fait, ça me fait penser au fait que on a complètement perdu l'habitude de s'ennuyer. En réalité, aujourd'hui, on a tellement de stimulation potentielle entre les ordinateurs, les téléphones, toutes les choses que tu peux faire dans ta vie, les livres, les trucs et tout. Moi, j'ai toujours l'impression de pas avoir suffisamment de temps et donc m'ennuyer, c'est un truc qui est à l'opposé de mon système de fonctionnement. Et pour autant, je pense que l'ennui a réellement des vertus. Et c'est pendant ces moments-là où, comme tu le dis, tu vois, le cerveau, il est capable aussi de se reposer, de faire le tri. Et si tu lui accordes pas des moments de récréation, et quand je dis des moments de récréation, c'est vraiment des moments où il peut faire ce qu'il veut, eh ben, il va les prendre au seul moment où tu lui laisses le champ libre, c'est-à-dire au moment où tu te couches dans ton lit et que tu as envie de dormir. Et c'est là où tu te retrouves à regarder ton plafond pendant 2 heures à pas réussir à t'endormir, et tu dis putain, mais maintenant je suis fatigué, j'ai envie de dormir, etc. Ça m'énerve. Alors qu'en fait, tout ça, ça doit se préparer avant, et c'est simplement le symptôme du fait que tu lui as pas laissé un petit peu le champ libre de temps en temps pendant ta journée.
Bah ouais, non mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Bon, le nombre de fois où je regardais le plafond. Il était beaucoup dans les séances de ski. Hein.
Comment est-ce que tu manages d'ailleurs ta récupération?
Je manage de façon très... Alors, quand je suis en expédition, j'ai le symptôme plein. Du coup, je mange, je dors. Et je suis au téléphone satellite pour bosser mon projet.
Remarque, c'est peut-être la meilleure chose que tu as à faire dans ce contexte où tu manques drastiquement de sommeil. Je pense que c'est pas le moment d'aller faire des étirements, de la mobilité et tout. C'est plutôt le moment d'essayer de grappiller les seuls moments de repos et de sommeil que tu peux avoir.
Ouais, bah, tu sais, juste, nous, on avait un chauffage en base du K2 avec, enfin, c'était pas un chauffage, c'était en fait un feu, un petit feu à gaz. Et le nombre de fois, moi, je me suis allongé par terre pour juste être à côté du feu, et ça te fait du bien, quoi, mentalement, parce que bah t'es fatigué physiquement, t'es encore plus fatigué que ce que tu pensais l'être. Ouais, c'est des gros trucs. Après, moi, comment je fais ici, c'est que moi j'aime bien sortir mon chien. C'est tout bête, mais c'est juste un moment pour moi où je prends pas je prends le téléphone, mais je le mets en mode avion, j'écoute de la musique et je marche. Et je profite avec mon chien, et pour moi, ça sera un moment qui est relaxant. Aussi, ça peut aller de la cuisine, tu vois, de beaucoup de choses. Après, si on parle plus point de vue physiquement, bah, je fais des étirements, je fais du sauna hammam 2 fois dans la semaine, tout ça. Vraiment essayer de régénérer. Et après, moi, là, tu vois, pendant les vacances de Noël, c'est la première fois depuis 1 an et demi où j'ai dit, bah, j'arrête. J'ouvre pas l'ordi, je prends le téléphone, mais je fais des petits trucs qu'il faut faire, mais pas non plus tout. Et ça moi, ça m'a fait du bien, parce que ça faisait 1 an et demi que je bossais comme un malade. Les vacances dernières à Noël, j'ai pas été avec ma famille, je travaillais dans des hôtels, tout ça, en plus du projet. Du coup, ça a été aussi réparateur pour moi, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu la famille. Ça faisait plus de 8 mois cette année. L'année dernière, j'avais pas pu profiter d'eux, tout ça. Et là, cette année, ces vacances de Noël, j'étais là vraiment avec eux à 100%, quoi. Et pas juste parler vite fait, aller au boulot, bosser le projet, faire ci, faire ça, et partir à droite à gauche tout le temps.
Mmh. Ouais, c'est important de se recentrer sur ses racines. Ouais. Et sur, en plus, c'est aussi, enfin, quand tu te confrontes justement à ce danger de mort quelque part, j'ai la sensation que c'est aussi là où tu prends conscience de l'importance de la famille, des gens que t'aimes. Ouais. Et alors que peut-être que dans le quotidien, quand t'es pris par la passion de ton projet, tu te dis que tu t'en occuperas plus tard.
Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Tu mets en fait ta vie personnelle, on va dire, à côté. Moi, le projet, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris ma vie personnelle, je l'ai mis dans quelque part, je l'ai laissé, et après j'ai juste mis la vie professionnelle du projet, tout ça, et juste de bosser tous les jours dessus et de faire, ouais, bah, c'est pas grave, c'est ce que je veux faire. Après, moi, je le fais avec plaisir parce que c'est aussi ma passion. Mmh. C'est ça le plus important, c'est que moi, j'ai mis vraiment cette partie-là en priorité parce que bah, je savais que c'est ce que je voulais faire et je voulais rien faire d'autre que réussir ce projet.
Et tu m'as dit tout à l'heure que l'un des messages que tu voulais transmettre, c'était que c'était possible et que dans l'absolu, avec la préparation nécessaire, n'importe qui pourrait gravir l'Everest. Qu'est-ce que je devrais faire si je voulais gravir l'Everest ?
Bah, tu viens t'entraîner une semaine avec moi. On voit comment t'es à 4000. Après, on part sur un 6000. Après, tu fais un premier 7000 ou 8000 selon comment t'es. Et après, en route pour l'Everest. Mais à côté de tout ça, bah, y a quand même toute la charge d'entraînement qu'il faut suivre. Hein. C'est pas juste aller gravir des sommets à gauche et à droite. C'est vraiment bah, toute la préparation. Mais ouais, ça, c'est largement possible. En deux ans, les gens, ouais, ils peuvent y être.
Ah ouais?
Ouais.
Ah ouais, c'est hyper rapide quand même.
Si, bah, en deux ans, moi, quand je dis deux ans, c'est qu'ils s'entraînent tous les jours.
Ouais.
Ils font des sommets à gauche, à droite, et ils se mettent vraiment dans le mood, en fait, du projet.
Ouais, ok, je comprends.
Voilà. Mais ouais, c'est largement possible.
Et tu dis, tu passes une semaine avec toi, parce que c'est quelque chose que tu proposes. Tu fais un peu de guide de montagne, tu coaches un peu des gens?
Alors, non, pas encore. J'aimerais guider des gens plus tard. Parce que mon rêve de petit c'était de devenir guide de haute montagne quand même, et il faut que je le fasse. J'avais ce rêve là de faire les 14, mais j'avais le rêve de plus petit encore de devenir guide, et ouais, c'est un truc que moi j'aimerais fonctionner plus tard, c'est que en fait de pouvoir en fait emmener des gens en montagne, transmettre ma passion, transmettre les valeurs que j'ai appris autour de la montagne, et de pourquoi pas en fait avec un circuit d'entraînement, de pouvoir proposer de partir sur un 8000 plus tard quand j'aurai le guide, tu vois.
Tu m'appelleras quand ce sera le cas, et je te servirai de cobaye. Je crois qu'en plus les aspirants guides, ils ont tout un programme de montagne à faire avec des, ouais. des cobayes entre guillemets. Donc je veux bien être l'un d'eux, mais et je trouve que c'est un métier vraiment magnifique, parce que outre la transmission de ta passion, etc., tu permets vraiment à des gens de vivre des émotions au-delà de la moyenne. Pour toi, ces émotions, elles sont devenues ton quotidien. Mais pour la plupart des gens qui ont une vie de bureau, entre guillemets, plus classique, c'est vraiment des émotions hors normes. Moi, ce que j'ai vécu en alpinisme, c'est des choses... Pourtant, j'ai fait plein de trucs, entre guillemets, extrêmes, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, surtout en discutant avec toi. mais l'alpinisme, c'est quand même ce qui m'a le plus marqué. Et je trouve que ce côté, entre guillemets... tu vois, viscéral avec la montagne. Enfin, je trouve qu'il y a une forme d'humilité. On se sent vraiment tout petit face à la montagne. Il y a une forme de respect mutuel qui est peut-être, enfin, que je trouve différent d'autres aventures comme, je sais pas, voler en avion de chasse, faire des sauts en parachute ou des trucs comme ça.
Ouais, bah t'as vraiment ce côté en fait, ouais, de te sentir plus petit parce que tu gravis un sommet qui fait déjà.
Et voilà, c'est ça.
Toi, ta taille. Et que, ouais, en plus, tu partages avec les bonnes personnes, en fait. C'est encore mieux parce que t'apprends et ludiquement, t'es avec des gens que t'aimes bien, tout ça. Et c'est vraiment des choses qu'on n'oublie pas. Tu vois, moi, je me souviens encore de ma première sortie quand j'étais la première fois dans mon refuge. Tu vois.
Tu veux nous raconter?
Bah ouais, moi, c'était ma première sortie refuge. Tu vois, j'avais 7 ans. Et c'est la première fois que je dormais dans un refuge, et je m'en souviens encore, c'était au col du Grand Saint-Bernard, tu vois, c'était dans la maison des moines, tout ça. Et moi, j'ai adoré cette sortie-là, et en fait, ça te garde des moments dans ta tête que t'es là. Moi, je pensais pas que 10 ans après, j'allais m'en souvenir. Pourtant, je m'en souviens. Et c'est ça à quel point, en fait, je trouve que la montagne est magique dans le fait de... Tu fais des choses, mais tu t'en souviendras tout le temps. C'est ça. Tu vois, dans 20 ans, j'aurai toujours mon histoire de l'Everest en me disant, ouais, j'ai vu la courbeur de la Terre, quoi.
Ouais, et puis c'est un truc que tu pourras raconter à tes enfants aussi. Enfin, c'est hyper riche. D'ailleurs, ouais. Je pense que tu vois, je te parlais de Serge Rotelli tout à l'heure. Il a pas gagné beaucoup d'argent dans sa vie. Il est encore locataire de sa maison. Donc tu vois, il a potentiellement aucune économie. Mais pour autant, c'est l'une des personnes les plus riches que je connaisse d'un point de vue du point de vue des expériences qu'il a vécues. Et ça se voit dans son regard, tu vois. À 60, maintenant il a 68 et ça pétille, tu vois. Il embrasse sa femme avec une fougue et une passion que j'ai rarement vu chez des jeunes de ton âge, pour te dire à quel point c'est un fou furieux de la vie, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui se travaille, justement, pas forcément avec de l'alpinisme, mais en tout cas en vivant des vraies émotions, en vivant des vraies choses, tu vois, en vibrant, quoi, en refusant, tu vois, cette espèce de voie du milieu relativement confortable et pas très excitante pour aller explorer, découvrir, vivre des aventures et puis surtout ses rêves.
Bah ouais, non mais c'est clair, c'est juste de vivre les moments vraiment à pleine main, quoi. C'est ça qui est magique.
Et tu m'as dit tout à l'heure quelle était ta petite routine matinale. Est-ce que tu as d'autres hacks que tu vas utiliser aujourd'hui pour exprimer pleinement ton potentiel?
Ouais, de mettre le téléphone en mode avion.
Ah ouais, t'as du mal un peu?
Bah c'est pas ça, c'est que j'ai un gros souci, moi j'écoute beaucoup de musique. Et je sais que quand je mets le téléphone en mode avion et que j'ouvre l'ordi et que j'écoute de la musique en plus, je me concentre vachement bien. Du coup, c'est vraiment moi mon principal hack. Après, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est le mieux. Mais moi, ça marche sur moi et ouais, je suis content de ça. Après, moi, au niveau des hacks, bah ça dépend, tu vois, tous les jours, je change un peu. Mon petit déj, il change tous les deux jours, des trucs comme ça, quoi.
Tu manges quoi pour le petit déj?
Moi, alors, les gens vont dire que c'est pas très bon, mais deux œufs avec des flocons d'avoine, une banane, avec des noix de cajou, tout mixé. Après, je mets dans la poêle, je cuis. C'est une petite crêpe et après je la mange. C'est trop bon pour moi, mais les gens ils disent que c'est pas bon.
Non mais attends, tu déconnes. Moi, je trouve ça génial. Maintenant, je petit déjeune plus, mais à l'époque, j'aimais bien faire une omelette le matin. Donc, je mettais 3-4 œufs, une banane aussi, un peu de flocons d'avoine aussi, et puis des carrés de chocolat à 85-90% là. Et ça me faisait une omelette au chocolat banane. Alors, laisse tomber, c'est une tuerie. Moi, je suis un grand fan de ça.
Ouais, mais c'est trop bon. Mais quand je dis ça, les gens ils sont là, ouais, bon, c'est pas bon du tout, quoi. Parce que surtout que moi, ma crêpe, je la loupe une fois sur deux. Du coup, c'est vraiment pas beau esthétiquement. Je pourrais pas faire l'Insta plat, là, tu vois, de prendre en fait plat.
Mais bon, le goût est là, c'est le principal. Mais il faudrait que j'essaye en mode crêpe, tiens.
Ouais, non, c'est vachement bon. Moi, j'aime vraiment bien. Tu cuis ça avec de comment ça s'appelle, de l'huile de coco.
Ah, ouais.
C'est trop bon. Moi, j'aime bien.
Ouais. Ouais, en plus t'as des bonnes protéines, des bons lipides, des bons glucides. Enfin bref, c'est super bien équilibré. Ok, cool. Je t'aurais bien demandé quelle leçon de vie t'aurais envie de transmettre à tes enfants, mais étant donné que t'en as pas, peut-être que je pourrais te demander quelle leçon de vie tes parents t'ont transmis et qui te semble vraiment importante.
D'aller au bout de mes rêves. Ça, c'est quelque chose qui m'ont vachement appris, que ça soit dans le ski alpin. Moi, j'ai voulu devenir champion du monde de ski alpin avant. J'ai poussé jusqu'au plus haut niveau que je pouvais. Du coup, la FIS, ce qui est la coupe de, enfin juste avant les coupes d'Europe, j'ai poussé à fond. Et après, bah moi, j'ai fait un peu trop de montagne. C'est ça mon problème. Du coup, je préfère la montagne. Et ils m'ont toujours en fait poussé, ouais, à suivre mes rêves et à tout donner, quoi. Et ça, c'est
pourquoi t'as arrêté le ski?
J'ai arrêté le ski parce que j'allais dehors, alors sur ma dernière année, en fait sur toutes les années de ma vie, j'ai fait beaucoup de ski alpin en compétition avec des grosses chutes, j'ai fait les ligaments croisés à l'âge de 11 ans, j'ai eu beaucoup de blessures à la tête, j'ai eu beaucoup de blessures au dos aussi, et sur la dernière année, du coup ma première année FIS, je devais arrêter la montagne, que j'arrivais toujours en fait à caler entre les entraînements de ski et partir en montagne vadrouiller. Et sur ma dernière année, j'ai dû arrêter parce que le ski devenait trop intense. Il fallait que je m'entraîne tous les jours vraiment. Et au milieu de l'hiver, moi, j'ai dit à ma maman en disant ouais, « mais là, je commence à en avoir marre de faire que des piquets et que des piquets. J'ai besoin d'aller en montagne. » Et vu mes résultats scolaires, ma mère a accepté que je sèche les cours en disant que j'étais malade et que je pouvais pas venir, vu que j'étais dans une structure privée, en fait, qui faisait l'école à la maison. On avait des profs, tout ça, qui étaient mis en place. Et moi, j'étais dans cette structure privée et j'avais dit « non, je suis malade aujourd'hui, je suis à la maison, je peux pas venir. » Et en fait, cette excuse, ma mère l'avait approuvée pour que j'aille en montagne. Mais si j'avais pas eu les résultats, j'aurais pas pu faire ça. Je rassure là. J'avais les résultats pour pouvoir faire ça. Et je skiais en pente raide et je grimpais pendant l'hiver quand je disais que j'étais malade. Et je m'étais mis le but, en fait, je voulais faire le Mont Blanc à ski avant mes 17 ans. Après cet hiver-là. Du coup, je commence à faire plus de 4000. Il y a eu la.
Quand tu dis le Mont Blanc à ski, c'est-à-dire monter en ski de rando et puis descendre du sommet à ski?
Ouais.
Cool.
Ouais. C'était génial. Et du coup, je me mets aux 4000. Je fais des 4000 à ski aussi. Tac, tac. Et j'arrive au Mont Blanc. Et je vais au refuge du Mont Blanc, les Grands Mulets. Et j'appelle ma mère en lui disant, maman, j'arrête le ski alpin. Alors que 2 heures plus tôt, je disais oui pour signer une deuxième année en FIS pour essayer d'atteindre la Coupe d'Europe. Et j'étais, non, j'arrête le ski, c'est bon, c'est fini. C'est fini le ski alpin, je me mets à la montagne pure. Et sa seule réponse, ça a été, ouais, mais est-ce que t'es sûr? Est-ce que t'as tout donné? Enfin, j'avais fait que ça toute ma vie. Et ouais, pour moi, ça a été le meilleur choix. Et après, j'ai pas arrêté d'enchaîner les montagnes. Et maintenant, on est sur les plus hautes montagnes du monde, quoi.
Et justement, quand elle t'a demandé « est-ce que t'es sûr ? Comment est-ce que t'as fait pour être sûr ?» Je te demande ça parce que, tu vois, je vois beaucoup de schémas se répéter, notamment chez des personnes plus âgées que toi, mais qui choisissent potentiellement une voie professionnelle, enfin des études à la sortie de leur bac, qui vont dans ces études-là, puis ensuite qui choisissent ce boulot, qui ont tendance à s'hyper spécialiser dans ce boulot, qui les épanouit pas tant que ça, mais étant donné qu'ils ont investi tant de temps dans leurs études, tant d'argent, qu'ils ont commencé à atteindre tel niveau de reconnaissance, on va dire, dans cette voie-là, il y a un biais d'engagement qui les empêche de changer de voie et puis de faire ce qui leur plaît vraiment. Comment est-ce que toi tu te laisses pas prendre par tout ce que tu as réussi à construire et puis surtout que tu étais quand même à deux doigts de décrocher ce qui a dû pour toi être un rêve pendant un tas d'années et à la porte de ce rêve, l'abandonner pour faire quelque chose d'autre qui te plaît a priori plus?
Parce que ça faisait déjà quelques mois que j'y pensais en disant, mais j'étais aux entraînements, je regardais les montagnes. Hein. Moi, je faisais de la descente et du super G. J'étais au départ, je regardais les montagnes en me disant, ça se skie, ça se grimpe, tout ça. Et en fait, ça va très vite dans la tête, ça cogite très vite. J'étais au refuge, j'ai pris la décision. Et ça a été quand même un des choix les plus durs de ma vie quand même, parce que j'avais que 16 ans, j'avais fait que ça toute ma vie, j'allais peut-être regretter. Je me suis dit, quitte ou double, on essaye, on voit, et voilà. Mais je savais que c'était la meilleure décision. Après, ça a été une décision, maintenant je sais que c'est la meilleure décision, mais ça a été une décision très difficile. Surtout, tu faisais que ça tous les jours. C'est ça le plus dur. C'est tu vas aux entraînements, tu fais de la muscu, tu vas aux entraînements, tu fais de la muscu, tu vas aux entraînements, tu fais de la muscu. Je faisais que ça pendant mes années FIS, enfin pendant mon année FIS. Et ouais, quand j'ai décidé d'arrêter, d'un coup t'es à la maison et tu grimpes de temps en temps, tu fais du ski de temps en temps et là t'es mais moi maintenant j'ai plus de routine. Qu'est-ce que je fais, quoi? Et ouais, c'est...
Qu'est-ce que je fais? J'envoie des mails pour trouver des sponsors.
Des mails pour trouver des sponsors. Je lance un projet que tout le monde pense que c'était impossible et au final, on en a réussi 12, quoi.
Et donc, du coup, c'est quoi la suite du projet?
Alors, la suite du projet, là, on devait faire les deux derniers qui sont au Tibet et j'ai pas pu, en fait, entrer à cause d'un problème administratif. Ils m'ont pas donné mes permis et mon visa pour entrer dans le pays. Et du coup, les deux sommets attendront le printemps prochain et on va les enchaîner très vite comme ça. ce projet est fini et après une semaine au soleil et après je relance un plus gros projet.
C'est quoi? Tu peux déjà le dire?
Alors non, je peux pas encore le dire parce que on pense que c'est faisable. On attend les. Je commence, on va dire, à regarder. Mais pour moi, en fait, mon projet, il est pas encore fini. Mmh. Et je préfère en fait finir un projet avant d'annoncer le prochain et me mettre vraiment plein dedans en disant ok, bah c'est par là que je vais faire ça. Tac, quelle montagne, tac, tac. Et ouais, voilà. Mais c'est un gros.
Ouais, t'as raison.
C'est un projet qui est encore plus ambitieux, plus gros, et ouais, ce projet va durer entre 2 et 4 ans.
Ok, ouais, ouais, c'est quand même engageant en termes de, ouais, en termes de décision, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour te suivre et pour voir l'aboutissement de ces différents projets?
Alors les réseaux sociaux, c'est les plus gros, si vous voulez voir ce que je fais tous les jours. C'est Instagram, c'est alasder-mackenzie, et ouais, c'est là où on poste le plus de contenu, et bientôt, on va se mettre sur les plateformes de YouTube, on est déjà sur LinkedIn, on est sur TikTok, et ouais, ça commence à avancer, on avance bien, Luc et moi.
Cool, le développement de la marque Alasder est en pleine progression. On mettra de toute façon tous les liens dans l'article lié à cet épisode. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais transmettre aux jeunes et aux moins jeunes qui nous écoutent pour clore cette discussion?
Eh bah, de croire en ses rêves, c'est le plus gros. Que ça soit dans les études, que ça soit dans le sport, il faut y croire et il faut travailler pour. Et quand on se donne les moyens, on réussit toujours. Mais il faut y croire.
Ben écoute, en tout cas, je trouve que, et je sais qu'on te le dit souvent, donc désolé d'être assez banal sur ce sujet, mais tu incarnes ce que tu promeus, et c'est vraiment extrêmement inspirant de voir ce que tu as réalisé, ce que tu as accompli à ton âge. Mais je trouve aussi tout le pragmatisme, toute l'intelligence que tu mets derrière, tu vois. De prime abord, quand on lit des articles dans la presse, on pourrait dire que ce gars est simplement à la naïveté d'un adolescent qui se croit invincible, alors qu'en réalité, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation et une compréhension très fine des facteurs qui peuvent te permettre de réussir et d'atteindre tes rêves. Donc, atteindre un rêve, c'est pas de la chance, c'est pas que de l'effronterie, c'est pas que le fait de foncer tête baissée, c'est aussi le fait de mettre en place la discipline, le travail, et l'abnégation nécessaire à les réaliser. Et je pense que tu le montres, tu le prouves bien. Franchement, c'est beau et appréciable de voir un tel niveau de maturité à ton âge. Et je pense que clairement, le fait de défendre un projet, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, un projet tel que celui-là, que ce soit par l'entraînement qu'il nécessite, par l'inconfort auquel il te soumet, mais aussi par toute la partie entrepreneuriale qui permet de le financer, ton aider à développer tous tes talents et compétences naturelles. Et je trouve que c'est extrêmement beau.
Ben, merci beaucoup. Et merci pour m'avoir invité. En tout cas, c'était cool.
Ouais, est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais oublié d'aborder, que tu aurais aimé dire?
Non, je crois pas. Je crois qu'on a tout abordé.
Bon, bah super. Eh ben écoute, avec ce beau sourire, alors je te souhaite une merveilleuse journée. J'ai hâte de voir la suite de tes aventures. Je vais de ce pas m'abonner sur ton compte Instagram, même si j'avoue que je suis pas un grand consommateur de réseaux sociaux. Je suis assez peu de personnes, mais tu en feras partie parce que j'adore la montagne et je serai ravi de pouvoir suivre un petit peu tes entraînements et tes prochains exploits.
Bah, la prochaine fois, il faut aller en montagne. On ira en montagne.
Allez, ça marche. Je viens quand tu veux.
Eh ben parfait alors. On se tient au courant.
Ça marche. À bientôt, bye.
À bientôt, au revoir.
Tu connais l'effet papillon? Un battement d'aile peut changer le monde. Alors si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi. Pour ne rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com.